Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Immaculé, le mot résonne comme une promesse. Nappe de table d'un plan immaculé, plage de sable immaculé, sommet de montagne aux neiges immaculées. Autant d'expressions qui, plus qu'elles ne désignent la réalité, parlent peut-être du désir secret que l'homme a de trouver en ce monde quelque chose de si pur qu'il fait mentir tout ce qu'il voit. L'Église dit de la Vierge Marie qu'elle est immaculée, un bien grand mystère pour lequel nous avons choisi un guide de première classe.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Marie l'Immaculée, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église en ce jeudi matin, 8 octobre, deuxième jour de pèlerinage ici, pèlerinage du Rosaire à Lourdes. Lourdes est en fête et nous sommes présents donc depuis les studios de Radio Présence et ce matin nous sommes avec vous, Martin Steffens. Vous êtes philosophe, connu aussi par les auditeurs, peut-être s'ils n'ont pas lu vos livres, parce que vous êtes chroniqueur entre autres à La Croix et à La Vie et auteur donc de multiples ouvrages et primés, dont un qu'on va parcourir ensemble ce matin, Marie comme Dieu la conçoit, paru aux éditions du Cerf. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette invitation et de nous prendre un peu par la main. Alors vous nous prenez par la main, mais aussi, il faut le dire, vous prenez par la main les pèlerins ou les curieux de ce pèlerinage, puisqu'hier vous donniez la conférence inaugurale sur le thème de la vie donnée à la vie reçue. C'est un honneur, j'imagine, hein. Ça n'est pas rien, parce que vous n'êtes pas dominicain quand même, il faut le dire.
Mmh, tout à fait.
Vous avez écrit donc ce livre sur Marie. Alors, sacré défi, parce que écrire sur Marie, c'est à la fois un bien grand mystère qu'il faut reparcourir et reparcourir peut-être pour un jour imaginer le cerner, si tant est qu'on le puisse. En tout cas, vous êtes lancé dans cette aventure. De fait, le thème de votre livre, c'est donc c'est cette Immaculée Conception, on va le voir. Je vous propose de commencer non pas par le début, mais de partir du principe que tout à chacun a peut-être un peu l'esprit embrumé en ces temps difficiles ici à Lourdes. C'est d'autant plus frappant, je trouve. Hier, il y avait des responsables du sanctuaire qui me disaient, ici, on cumule tous les handicaps contemporains, presque. C'est-à-dire qu'on accueille des malades, des personnes fragiles, des personnes d'un certain âge. Et du coup, pour nous, c'est la crise, qui en dit long quand même, peut-être, dans ce qui se joue. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous publiez aussi conjointement un livre qui s'appelle « Marcher la nuit ». Pourquoi ce livre?
Oui, marcher la nuit parce que nous sommes entrés dans une nuit, ça a été très clair avec, je pense, plus le déconfinement que le confinement lui-même. Le déconfinement, alors le confinement, tout le monde s'est dit, allez, c'est une parenthèse, il faut y consentir. Et puis, quand on est sorti, on a vu que ce monde ne fonctionnerait plus jamais exactement de la même façon, que le déconfinement avait été comme l'extension du confinement à toutes les dimensions de notre vie. Par exemple, on voit bien que entrer dans un restaurant devient problématique. Aujourd'hui à Paris, il faut donner son adresse. On voit bien en venant à Lourdes l'allonge des annonces que fait le contrôleur sur toutes les prescriptions que nous devons respecter. Et même l'Église souffre d'une crise, en effet, qu'on voit à Lourdes, une crise de l'accueil. Comment ces lieux qui sont maintenant fléchés, ces lieux où les consignes sanitaires s'ajoutent aux paroles sacramentelles, comment ces lieux peuvent rester des lieux d'accueil, comme si le monde, à part le monde privé, mais le monde privé ça n'est jamais que chez soi, comme si le monde était devenu tout à coup inhospitalier.
Alors, marcher la nuit, c'est quand même fort, c'est-à-dire vous laissez entendre que ça n'est pas une nuit temporaire, que c'est une nuit qui est appelée à durer, c'est votre conviction?
Ah oui, je pense que il n'y a pas dans l'histoire de parenthèse, si vous voulez, les communistes disaient il y aura la parenthèse de la dictature du prolétariat, et après ce sera, mais ils n'en sont jamais sortis de cette dictature où Hiroshima devait être la parenthèse qui clôt la Seconde Guerre mondiale, mais depuis on est dans la crainte de la bombe H. En fait, l'histoire, quand elle ouvre une parenthèse, elle attend très très longtemps qu'elle se referme, si jamais elle se referme. Et je crois que ce que nous vivons, non, ça n'est pas une simple parenthèse. Et c'est vrai que la métaphore de la nuit, pour ce livre qui paraît aujourd'hui d'ailleurs, m'a intéressé parce que la nuit, c'est aussi la pérégrination de Marie et Joseph. Marie et Joseph enchaînent les lieux inhospitaliers. Finalement, ils se posent là où ils peuvent se poser, peut-être peut-être Dieu est moins accueilli, comme le malade de nos jours est moins visité et est moins accueilli en ce monde, mais il arrive quand même à se poser quelque part. Et là, et c'est le fil directeur de ce livre, là des rois mages viennent toutefois visiter Jésus. Donc il y a la nuit et pourtant il ne faut pas désespérer de frapper et d'attendre qu'on nous ouvre.
Alors, on a fait de la publicité pour cet autre livre à paraître. Ici, en tout cas, dont vous publiez, enfin, ici, puisque vous m'avez dit que vous l'avez, on vous avait demandé, les éditions du Cercle, c'est des éditions dominicaines, vous avez demandé d'écrire ce livre, que ce serait comme une tradition de publier celui qui fait la conférence inaugurale, si j'ai bien compris. Et le livre dont on parle, c'est donc Marie comme Dieu la conçoit. C'est un titre ambitieux, hein. Voilà, Marie comme Dieu la conçoit, ce n'est pas rien. Si on reste un petit peu dans la nuit, dans votre livre, on aurait pu dire que vous évoquez la grande peste aussi en disant qu'elle a changé profondément le monde, mais peut-être qu'on y reviendra quand on parlera du Moyen-Âge dont vous parlez. J'aimerais qu'on parle un peu d'Hannah Arendt. Alors je vais vous laisser resituer qui est cette grande philosophe, et vous la citez dans « Conditions de l'homme moderne ». Moi, qui ne la connais pas aussi bien que vous, ça m'a un petit peu surpris. Vous citez un passage où cette grande philosophe qu'on connaît davantage parce que on sait que c'est une femme donc qui a réfléchi sur le mystère du mal. Elle aussi, comme je le disais en introduction, elle cherche en fait dans la réalité quelque chose de nouveau, d'absolument nouveau, comme d'immaculé, et elle en parle à la fin de cet ouvrage. Alors, qui est Hannah Arendt et que dit-elle qui pourrait nous servir au début de cette émission ?
Alors, Hannah Arendt est en effet une figure majeure de la philosophie au XXe siècle, qui a été l'étudiante de Heidegger, et puis même un temps avant que le nazisme les sépare, elle était d'origine juive et lui a eu partie liée au nazisme. Elle était l'amante de cet autre grand esprit qui était Heidegger, et c'est une philosophe qui a philosophé aux prises avec son temps et en effet aux prises avec l'histoire. On la connaît pour avoir couvert le procès Eichmann, pour avoir inventé l'idée de banalité du mal.
Eichmann, c'était donc ce membre, on va dire, de la garde rapprochée presque d'Hitler, donc un SS qui appliquait le plan d'extermination final.
Voilà. C'est ça, et qui était jugé au début des années 60. Et c'est vrai que dans cette banalité du mal, elle dit au fond que ce mal-là qu'il a fait, peut-être que chacun pourrait être amené à le commettre, que la conscience s'endort très très vite, mais elle n'en désespère pas et elle fait de la natalité, de la naissance, de la venue au monde chaque jour de nouveaux êtres, les bébés qui naissent. Elle fait de cela quelque chose dont le christianisme nous a mis la puce à l'oreille. Hein. C'est bien lui qui a commencé à dire « un enfant nous est né, le monde peut renaître tout entier ». Elle fait de la naissance le phénomène politique par excellence, parce que la naissance nous maintient dans l'espérance. Puisqu'il y a un nouvel être, non seulement on doit lui présenter le monde tel qu'on doit lui transmettre, hein, on est des éducateurs, mais on doit évidemment lui laisser la chance à cet enfant qui est tout nouveau, eh bien, d'introduire ce à quoi on n'avait pas pensé et de faire bien mieux que nous.
Alors, vous laissez entendre qu'ici, à Lourdes, c'est aussi un lieu de naissance. Alors, vous allez me dire que là, on va vite tomber dans un discours, j'allais dire de curé, pardon pour eux, mais c'est pas du tout, en fait, le ton de votre livre, hein, qui est un ton donc, de philosophe et de contemplatif. Vous dites la chose suivante: « Chaque fois qu'un cœur fond au contact de Marie, l'innocence a gagné un peu de terrain sur nos lassitudes et notre vieillesse. » Vous êtes venu souvent à Lourdes pour dire cela. Et qu'est-ce que vous entendez par là ?
Alors, beaucoup de choses, mais c'est vrai que déjà, à chaque fois qu'un cœur fond au contact de Marie, ce qui est très très beau, c'est que la piété mariale, c'est une piété d'adultes en général. Les enfants peuvent avoir pour Marie une certaine dévotion, mais en général, ça se mélange un peu avec l'amour qu'ils ont pour leur maman, qui est l'origine de la vie. Mais ce qui me touche, c'est que ces hommes, et ces grands hommes, hein, c'est Charles Péguy, c'est Duns Scott, puisque nous allons parler de ce théologien-là, qui finalement se laisse toucher par Marie, c'est des hommes qui se rappellent que on n'est pas adulte pour avoir été à un certain moment enfant. C'est qu'en réalité, l'adulte est comme enveloppé par l'enfant. Je n'ai pas laissé un jour l'enfance derrière moi. En réalité, l'adulte, c'est l'enfant continué et peut-être même c'est l'enfant assumé, l'enfant auquel je continue de dire oui, parce que si je lui dis non, ben, je ne vais pas reconnaître que la plupart de mes peurs et de mes blessures sont des blessures d'enfance.
Et c'est ce que permet le contact avec Marie, cette réunification quelque part, cette unité intérieure ?
C'est ça, je trouve qu'il y a quelque chose dans le fait d'aimer cette figure donc, qui a donné la vie, mais voilà, qui a aimé l'enfant, c'est se laisser être aimé aussi comme enfant. Et c'est pour moi d'ailleurs le meilleur moyen d'être un adulte responsable, pleinement accompli.
Voilà, et Dieu sait si vous le dites, et vous le dites aussi dans votre livre, mais si on imagine bien que c'est un long chemin, alors c'est un chemin donc aussi qui peut commencer ici, c'est ce que peut-être laisse entendre aussi cette phrase et votre présence ici. Si on continue, on va dire, cette introduction à la thèse de votre livre, je ne sais pas si c'est une thèse, en tout cas au cœur de votre livre, qui est donc de parler de l'Immaculée, vous dites évidemment que l'Immaculée Conception, c'est Marie qui s'est révélé comme tel ici à Lourdes au moment des apparitions en 1858 à Bernadette Soubirous. C'était donc un dogme qui avait été proclamé par l'Église. Peut-être faut-il rappeler cet épisode. Tout le monde, on va dire, les Lourdais le connaissent par cœur, mais les autres moins. Cette petite Bernadette qu'on prenait un peu pour une sotte et une illuminée et qui arrive avec une phrase qu'elle ne connaissait pas elle-même presque.
Oui, c'est ça. Le curé, évidemment, de Massabielle peinait un peu à la croire et lui demandait toujours mais comment se nomme cette belle dame, comment se nomme-t-elle? Et Marie répondait par un sourire, ce qui d'ailleurs n'est pas rien, parce que c'est peut-être une réponse, peut-être que nous voulons nous enfermer les uns les autres dans un nom pour se dispenser d'avoir à entrer en relation, ce qui un peu arrive à Moïse qui demande à Dieu ce nom, hein, comment te nommerai-je auprès de mon peuple, et Dieu répond, je serai qui je serai, je suis qui je suis, c'est-à-dire vis avec moi, suis-moi si tu veux savoir qui je suis. Et Marie, quelque part dans ce sourire qu'elle oppose à la question de non pas tant de Bernadette que de son curé, et elle répond, elle dit mais voilà, je suis celle avec qui tu dois vraiment entrer en relation, ne m'enferme pas tout de suite dans un nom, mais n'empêche que le nom vient, je suis l'Immaculée Conception, hein, que soy era Immaculada Conceptio, et c'est vrai que Bernadette retient ce nom là, elle le répète en boucle, elle arrive près du curé, elle le dit, lui il croit qu'elle s'attribue ça, qu'elle se met à dire « Je suis l'Immaculée Conception ». En fait, Bernadette, évidemment, ne parle pas d'elle. C'est enfin le nom que ce curé attendait. Et c'est extraordinaire parce que le dogme a été prononcé en 1854. Il est peu probable que Bernadette en ait... Enfin, elle a dû en entendre parler. Mais ce qui étonne, c'est que Marie, ici, se donne pour nom. Voilà, quel est mon nom ? Eh bien, mon nom est Immaculée Conception. C'est-à-dire, je ne suis rien d'autre que celle, en effet, que Dieu conçoit, au sens même de, quand on parle de concevoir un enfant, je suis celle qui n'a d'autre être que de sortir de la parole de Dieu. Et tout mon être, je le tiens d'un autre, qui est ce Père aimant.
Alors, vous êtes penché pendant ce livre sur l'Immaculée Conception avec un angle bien particulier que je vais vous laisser préciser, on va dire, en teasing de la deuxième partie. On pourrait lire ce que dit le texte canonique, mais c'est un peu long, de l'Immaculée Conception. Pourquoi est-ce que vous êtes... pourquoi ? Parce que ça vous paraissait abscon, difficile à appréhender. Pourquoi cette l'aventure de cette recherche ?
Ah, bonne question. Comment on en vient? Alors, je crois que j'avais une petite dette personnelle vis-à-vis de Marie l'année de ma conversion. Ça a été une conversion très étonnamment mariale. Je n'étais pas croyant et je préparais en même temps l'agrégation de philosophie. Et je vois bien, là, je prépare des jeunes à un concours difficile. Et c'est toujours des années, où l'on se demande, nous qui sommes en train de mourir à notre adolescence, qui l'on veut être. Et dans mes affaires que j'avais embarquées à l'époque, j'avais quitté ma ville natale pour aller étudier à Strasbourg, j'avais juste une carte postale de Marie. Et c'est vrai que dans cet temps où on se dit, mais est-ce que je vais réussir? Et si je réussis pas, comment financièrement je m'en sortirai l'année prochaine? C'est vrai que je l'avais épinglé, cette carte postale. Et finalement, au fur et à mesure de l'année, j'étais pris de moments de joie. J'avais ce que Ignace de Loyola appelle des joies sans cause précédente, vraiment des joies pures et gratuites. Et ma maman, me demandant si j'allais bien au retour de Noël, je lui avais dit, ça va très bien, mais il y a un truc bizarre, c'est que j'ai les joies que ressentent les femmes quand elles sont enceintes. Alors, je ne sais pas pourquoi je m'étais imaginé que les femmes enceintes avaient des joies particulières. Et puis, je lui avais demandé ce qu'il fallait que j'en fasse. Elle m'avait dit, bien, laisse faire, laisse-toi faire. Et c'est vrai que c'est vraiment ma conversion a été comme un enfantement et liée à cette figure de Marie. Et quand il m'a été demandé d'évoquer la figure de Marie, puisque aussi je suis un lecteur d'un philosophe dont on va parler dans un instant, qui est Jean Duns Scott, et qui est celui qui a formalisé l'Immaculée Conception, eh bien la rencontre d'un de mes penseurs préférés, Duns Scott, avec cette figure de Marie qui est comme venue me chercher là où j'étais, eh bien ça n'a fait qu'un, et je me suis dit que j'allais et prendre cet angle pour évoquer cette figure immense qu'est Marie.
Alors voilà, on va avoir deux guides, vous et Duns Scott, donc ce théologien franciscain donc du XIIIe siècle, on va dire plus que prophète, hein, puisque ça fait combien, presque six siècles avant, déjà il parlait de l'Immaculée. On va faire une première pause et puis on va retrouver Martin Stephens. Je rappelle le titre de votre livre, en tout cas celui qu'on parcourt aujourd'hui, « Marie, comme Dieu la conçoit », paru aux éditions du Cerf.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Marie l'Immaculée, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, en ce jeudi matin, 8 octobre, deuxième jour ici à Lourdes, puisqu'on est en direct de Lourdes, du pèlerinage du Rosaire, pèlerinage emmené par la famille dominicaine. Ils sont moins nombreux que d'habitude, mais on va dire, ils font mentir, les pronostics et les nuages noirs qui s'amoncellent au-dessus de nos têtes. Et ici, les pèlerins sont dans la joie, sans aucun risque sanitaire, je le dis pour tous les auditeurs qui voudraient les rejoindre, il y a encore de la place. On est loin de la jauge de 5000 personnes. En tout cas, ce matin, on est avec vous, Martin Stephens. Pour rappel, pour ceux qui nous rejoindraient, vous êtes philosophe, chroniqueur, entre autres pour le journal La Croix et la Vie, et auteur donc d'un ouvrage qu'on parcourt ce matin, « Marie, comme Dieu la conçoit », paru aux éditions du Cerf. Alors, vous êtes notre guide ce matin pour parler de l'Immaculée, vaste programme, surtout si on part du principe que c'est parfois du chinois pour certains auditeurs, l'Immaculée Conception, cette manière d'appeler Marie, mais vous avez vous-même un guide donc qui s'appelle Duns Scott. Alors avec vous, on va plonger un peu dans le Moyen-Âge. Avant de parler de lui, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ressemblait quelque part ce Moyen-Âge? Je vais juste vous citer. Sans le Moyen-Âge, il n'y aurait pas eu le monde enchanté mais tragique des Grecs, dites-vous. puis le monde désenchanté et absurde des cafés parisiens. Et il y a eu le Moyen-Âge, donc. Alors, le Moyen-Âge, allez, je vais vous le laisser présenter. Cette fois, je ne vais pas vous citer. Quelle est cette immense parenthèse entre les deux, entre ces cafés parisiens et le monde tragique des Grecs ?
C'est vrai que le Moyen-Âge, comme on le dit, c'est l'âge moyen, l'âge médian entre deux époques, le pensait-on, en tout cas au moment de la Renaissance, deux époques de lumière, la Renaissance elle-même, qui nomme le Moyen-Âge ainsi, et les Grecs qui étaient donc une rive de lumière. Mais en réalité, en réfléchissant sur le Moyen-Âge d'où vient Dan Scott, je me disais qu'il n'y a pas de rive l'une pour l'autre sans le pont qui les relie. Et le Moyen-Âge, quelque part, nous permet de mieux entendre ce qu'étaient les Grecs et l'horizon grec. L'horizon grec, c'est quand même des dieux qui sont indifférents aux hommes, un monde qui est un cosmos, mais qui tourne tout seul, et l'homme doit tenter d'épouser le mieux possible cette marche d'un cosmos, dans lesquels les dieux peuvent intervenir, mais sans égard pour les hommes. Et de l'autre côté, on retrouve un peu ce monde tragique, mais cette fois-ci, il n'y a même plus de cosmos, même plus de dieux. C'est le monde en effet moderne des cafés parisiens. On pense à Sartre qui pense que, lisons le journal, au café de Flore en fumée, que rien n'a de sens. Bon. Et entre les deux, il y a eu un monde où Dieu était ouvert à l'homme, où les cieux racontaient la gloire de Dieu, et un monde comme ça où ces trois entités, Dieu, l'homme et le monde, étaient en communication, en lien. Le monde n'était certes pas Dieu, mais il n'était pas non plus complètement sourd aux appels des hommes, puisque ce monde-là avait été voulu, aimé et créé par Dieu. Et le Moyen-Âge, c'est vraiment une période lumineuse. D'ailleurs, c'est un peu comme ce qu'on disait de l'enfance tout à l'heure. Quelque part, puisqu'il est avant nous, il est encore là, et de la même façon qu'on peut réactiver notre propre enfance, par exemple dans la joie de recevoir un cadeau, eh bien on peut réactiver ce Moyen-Âge qui est en réalité vraiment une période, alors une longue période, mais une période lumineuse, quand on voit en effet que cette période a donné naissance non seulement aux cathédrales, non seulement à des œuvres d'art, de peinture murale absolument exquises, mais en plus à des grands philosophes comme saint Thomas d'Aquin ou le bienheureux Dun Scott.
Alors le bienheureux Dun Scott, si vous deviez nous le présenter, donc il naît en 1266 dans un village d'Écosse, à Dun, D-U-N-S. C'était donc un franciscain. C'est important à dire parce que à vous lire, en fait, il faut, j'allais dire, comprendre la pauvreté de l'intérieur pour être capable d'appréhender le mystère dont on parle ce matin. Ça veut dire quoi ? Il faisait partie des premiers franciscains, donc. Qu'est-ce qu'on sait de sa vie ? Quelle a été sa vie ?
Alors, on sait de sa vie le fruit qu'elle en a donné. On n'en sait, pas grand-chose. Je crois même qu'au niveau de sa date de mort, il y a encore quelques incertitudes. Moi, j'ai bien aimé celle que j'ai mise parce que ça le faisait mourir à 43 ans. Or, j'ai 43 ans, donc écrire sur lui à l'âge auquel il a rejoint son créateur, je trouvais ça assez bienvenu. Bon. Oui, pour sa vie, on en sait le fruit. Il était franciscain. En effet, vous parlez de pauvreté. La pauvreté franciscaine, c'est vraiment ce que je ne possède pas, par là même, je peux encore le recevoir. Et au contraire, ce sur quoi je mets la main, et on voit bien cette main qui est la main de l'emprise, ça n'est pas une main qui se retourne pour recevoir. Et c'est ça sa pauvreté. Et du coup, ce qu'il recevait.
Vous pouvez préciser, parce que ce que vous venez de dire, c'est profond, et peut-être vous le disez vite, vous le dites vite.
Oui. Alors, parce que si.
Comment vous le rediriez autrement, peut-être?
Tenez, par une simple anecdote, récemment, un ami me racontait que il se plaignait, d'ailleurs à moi par ailleurs, de chercher un livre qui coûtait rien du tout, un livre de poche, mais qu'il ne le trouvait plus, ou bien à 152 euros sur les sites de vente de livres sur Internet, et qu'il va à une fête à laquelle il s'ennuie cruellement, et là, il voit sur la commode avant de partir le fameux livre. Et il se dit, bon, pour me dédouaner de ces heures un peu perdues avec ces gens, en plus, qui en a quelque chose à faire de ce livre, je le prends. Bon. Et il dit, bon, je m'en vais. Et son hôte lui dit, attends, tu avais parlé d'un livre que tu cherches, je l'ai pour toi, ne bouge pas, je l'ai mis là et puis il le cherche partout. En fait, il l'avait lui-même mis dans la poche. Et donc, l'autre ne pouvait plus le lui donner. Et finalement, il dit, écoute, va-t'en si tu as besoin de t'en aller, mais dès que je le retrouve, je te mets un texto, etc. Et sorti dans la rue, il se dit, bon, au fond, je l'ai pris avant qu'il me le donne, ça revient au même. Bon, ça revient au même puisque il allait me le donner, j'aurais eu le livre, etc. Mais au fond, non, il voyait bien que tout était changé puisqu'il avait pris cela même qui autrement lui aurait été donné et qu'entre quelque chose sur quoi je mets la main et quelque chose que je reçois d'un autre, il n'y a pas, c'est pas le même résultat. Oui, le livre est dans la poche, mais il y a un monde entre le, voilà, ce monde que je dévore et ce monde que je reçois dans la contemplation. Il y a tout un univers.
Alors, de fait, c'est franciscain donc, qui appelait la pauvreté « dame pauvreté hein, », comme une mère, une éducatrice aussi, on a l'impression. Cette manière de recevoir, c'est d'ailleurs le début de votre livre, mais j'ai choisi dans cette émission de le faire un peu à l'envers. Tout le début de votre livre, c'est donc de partir de deux mots, « merci » et « me voici », laissant entendre que le fruit que peut porter de la contemplation de l'Immaculée, c'est justement d'apprendre on va dire, à vivre les mains ouvertes. Pour reprendre une expression assez courante. Duns Scott donc s'inscrit aussi, c'est un philosophe donc, si j'ai bien compris, donc s'inscrit dans une philosophie qui est celle de ce monde que vous avez décrit. Qu'est-ce que vous pourriez dire de cette philosophie et en quoi elle va nous permettre d'arriver à la fine pointe de ce développement sur l'Immaculée?
Oui, c'est vrai que c'est à la fois mon livre est sur l'Immaculée, à la fois il part de bien plus loin, et c'est un peu le charme de Marie de ne pas s'indiquer elle-même, et il part de la façon dont Duns Scott et sans doute son maître Saint François d'Assise lisait, pourrait-on dire, la création. La création pour lui est un don. Dieu aurait pu ne pas créer le monde, mais il l'a créé, et on pourrait dire face à la beauté de cette création, face aux papillons, face à son propre corps et au fait que nous soyons donnés les uns aux autres, on pourrait dire comme quand on nous fait un cadeau, il ne fallait pas. Il ne fallait pas, c'est-à-dire il n'y a aucune nécessité pour Dieu à créer le monde, aucune obligation, aucune. Dieu est parfaitement Dieu dans l'amour qu'il se porte en lui-même, puisqu'il est relation, Père, Fils et Saint-Esprit.
Et peut-être, avant que vous développez ça, ma suggestion, c'est peut-être de nous redire que cette philosophie médiévale, à la différence de la philosophie peut-être antique, elle ne fait pas l'économie de la création et du réel. Voilà. Oui. C'est important peut-être à préciser, c'est des choses que vous avez peut-être vous en tête. Est-ce que vous pourriez nous faire cette petite digression professorale? C'est-à-dire, on ne philosophe pas à partir de juste des idées.
Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est extraordinaire dans cette philosophie médiévale. Ce qui est très touchant, on pourrait dire, mais c'est un mélange de philosophie et de théologie. C'est en réalité une philosophie qui, alors que Platon et Aristote et Plotin, etc., les grands philosophes grecs, pensaient que ce qu'il y a de plus réel en nous, c'est l'idée que nous incarnons. Il parlerait même pas d'incarnation, l'idée que nous sommes, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus réel en vous, c'est l'idée d'homme. Et que malheureusement, il se trouve que par le fait que l'idée ait rencontré la matière, eh bien, il y a une pluralité d'hommes. Mais la pluralité d'hommes, toi et moi et lui, c'est comme un défaut par rapport à la pureté de l'abstraction qui est l'idée. L'idéal, ce serait pour Socrate de cesser d'être Socrate et de devenir de plus en plus l'homme avec un H majuscule.
On est parfois, aussi, aujourd'hui, on est parfois peut-être dans cette idéalisation.
Oui, ouais, peut-être que perdant le sens de Dieu, on devient de moins en moins, on devient de plus en plus individuel, mais de moins en moins singulier. Parce qu'il y a la révélation chrétienne qui arrive, et la révélation, eh bien, c'est que l'être suprême, l'être le plus, eh bien, c'est quelqu'un qui nous parle. Et quelqu'un qui parle singulièrement à chaque personne. Tout à coup, on se met pas à abstraire à partir de la somme des êtres humains l'idée d'homme. On fait l'inverse. On rencontre Moïse, on rencontre Rachel qui pleure ses enfants. Puis on rencontre Joseph, Marie, etc. etc. Et c'est vrai que le philosophe du Moyen-Âge, il fait le détour par la personne et même par des personnages. pour lui, réfléchir sur l'être suprême, c'est ne jamais oublier qu'il a tété à un moment donné le sein d'une femme, que cette femme s'appelait Marie. Il est entré dans notre histoire, il a eu soif, il a demandé à la Samaritaine de lui donner à boire, etc. etc. C'est une philosophie extrêmement incarnée. Chez Duns Scott, ça donne une philosophie de l'etchéité. Alors, etché, ça veut dire quoi en latin? On connaît ça par etché homo, voici l'homme. Etché, c'est chacun est en effet un me voici absolument singulier. Et l'idée d'homme, l'idée générale d'homme est bien plus pauvre que toi et moi. Ce qui compte, c'est en effet de ne jamais penser l'aventure humaine sans passer par la petite histoire infiniment profonde de chaque homme.
Voilà, vous avez un passage, d'ailleurs, vous dites Christophe, je ne sais pas si c'est Christophe. Oui, Christophe, oui, est ça. Un monde en lui-même. Il y a la christophéité de Christophe.
Exactement.
Voilà. Ouais. Alors, Duns Scott, semble-t-il, à vous lire. Avant, une fois de plus, c'est un long préambule que vous faites quelque part, hein,
oui.
Avant de parler de l'Immaculée. Vous dites, dans le fond, qu'il nous aide aujourd'hui aussi à voir le monde et l'incarnation, le mystère de l'incarnation, autrement. Souvent, on pourrait avoir l'idée que Dieu est venu d'abord pour nous sauver. C'est en tout cas ce qu'on entend souvent, très souvent, quand on est un petit peu pratiquant. Vous renversez ça, la lumière de Duns Scott, et vous dites fort justement de ce « il ne fallait pas », que ce n'est pas comme ça qu'il faut envisager les choses, c'est-à-dire.
Oui, alors ça c'est un bouleversement d'ailleurs pour beaucoup quand je l'ai, il m'est arrivé de le présenter en conférence, ça fait un petit choc, mais je crois que c'est un choc salutaire, c'est-à-dire que pour Duns Scott, l'incarnation ne peut pas avoir pour unique raison le péché des hommes. L'incarnation, la venue dans notre chair de Dieu, ça ne peut pas avoir pour cause quelque chose d'infiniment dommageable qui est le péché d'Adam et la somme des péchés qui s'en suivent. Pour lui, l'incarnation est en réalité, hein, si ce monde est un cadeau, pour qui est-il un cadeau? Eh bien, le monde est un cadeau du Père au Fils. C'est-à-dire que avant que le Père offre son fils au monde en vue de la rédemption du monde, le Père avait offert le monde à son fils en vue de son incarnation.
Il ne fallait pas, ouais. D'où vient-il
Il ne fallait pas, c'est que c'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est absolument gratuit. On sent cette gratuité du monde palpiter dans la diversité des formes animales, des végétaux. On sent que ce monde est une surprise. Et d'ailleurs, il nous surprend encore. Et à la limite, quand on devient un savant de tel ou tel domaine, on voit que ce monde est infiniment surprenant. Hein, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi la science désenchante le monde, alors qu'elle devrait l'enchanter de plus en plus. Et le « il ne fallait pas », c'est que, voilà, il y a un cadeau. Ce cadeau, c'est quoi? C'est le Père qui réjouira le Fils au moment de... quand le Fils prendra chair.
Alors justement, oui. Excusez-moi, je veux juste m'arrêter là-dessus. Pardon, je vous coupe un peu trop pour vous. Hein. Mais vous avez une phrase comme ça, « il lui offrit la chair ». Souvent, oui. L'image qu'on se fait de Dieu, quand on est chrétien, quand on a un peu la foi, c'est qu'on se dit « le pauvre ». Il vient du ciel, il est venu, il en a bavé, merci d'être venu, et tant mieux pour lui s'il est reparti maintenant. Mais vous renversez, probablement vous n'êtes pas le seul, à la lumière de Duns Scott, il lui offrit la chair. Pourquoi cette expression?
Ah, parce que, alors c'est vrai, je suis d'accord avec vous, je pense à un jeu de mots de mon fils, quand il avait 13 ans, c'est-à-dire l'an passé, mon fils aîné, qui me dit, sur la croix, Jésus a pris chair. Je me dis, oui, théologiquement, c'est intéressant. Lors de sa naissance, il a pris chair, mais sur la croix aussi. Et en fait, il faisait un jeu de mots. Il a pris chair, c'est-à-dire, il en a bavé. Et c'est vrai que prendre chair, c'est C-H-A-I-R, c'est aussi prendre chair, C-H-E-R. Donc, on pourrait voir ça. En réalité, pour Duns Scott, la chair est infiniment bénie. C'est une chose merveilleuse que d'être. Et c'est une chose d'autant plus merveilleuse d'être un être de chair, même d'avoir un cœur de chair, que d'être un être de pierre ou d'avoir un cœur de pierre. C'est-à-dire la chair est bénie, elle est profondément bonne. Duns Scott ne pense pas d'ailleurs que le péché originel, par exemple, se transmette par contagion sexuelle au moment de l'accouplement des parents. Pour lui, le péché est une question de volonté et donc il s'attache à délier le péché de la chair. La chair est si bonne que de toute éternité, dès lors que il vint à l'idée de Dieu de créer le monde, eh bien la chair était le cadeau que le Père en effet offrait au Fils.
Et on en vient donc à Marie, comme conséquemment, mais comme vous dites, discrète comme elle est, elle vient comme, j'allais dire, dans le pli presque de cette réflexion. Pourquoi l'Immaculée alors? Qu'est-ce que Don Scott dit? Nous, ce qu'on en sait ou ce qu'on en comprend, c'est que pour accueillir Dieu, il ne pouvait rien avoir d'autre qu'une, justement, une plage presque recouverte de neige. Mais qu'en dit Don Scott?
Ah oui, c'est ça, on pourrait croire que finalement...
nous sommes trop sales et elle serait suffisamment pure.
C'est... Exactement, alors que je ne crois pas que ce soit ça, le cœur, et je ne crois pas que cette idée « nous sommes trop sales », il fallait une plage de pureté pour atterrir. Je ne crois pas que cela augmente en nous l'espérance. En réalité, là, il faut partir autrement. Le premier grand événement, c'est la création du monde. Et si le Père voulait offrir à son fils le monde en vue de son incarnation, eh bien, au moment où venait à Dieu l'idée du monde, lui venait aussi l'idée d'une mère pour son fils. Et donc Marie est comme avant la création du monde. D'ailleurs, la parole que l'ange lui adresse quand il lui dit « Je vous salue Marie, comblée de grâce hein, », ce « comblée de grâce »,« kekaritomene » en grec, est un nom à part entière qui veut dire « Depuis toujours, tu as été celle qui était comblée de grâce. Depuis toujours, tu es comblée de grâce. Dès avant la création du monde, venait à l'idée de Dieu une mère pour que son fils puisse prendre chair. » Et donc Marie est avant cet autre événement, c'est le deuxième événement, c'est le péché. Il y a le grand événement à quoi nous devons toujours revenir, qui est la création gratuite de ce monde et un monde qui est profondément béni. Il y a le deuxième événement qui est terrible, qui nous arrive tous les jours, qui est celui de notre péché. Mais le péché est second, et si Marie est Immaculée Conception, c'est qu'elle nous indique que dans ce monde en effet marqué par notre péché, par notre violence, eh bien toutefois elle est le signe que on pourrait dire le bien fondé du monde, le bien-être, la raison d'être du monde est plus grande que le péché qu'on y inscrit de temps en temps.
Marie, comme Dieu la conçoit, c'est donc le titre de votre livre, Martin Stephens, paru aux éditions du Cerf. On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour nous aider à faire nôtre cette grande méditation que vous proposez dans ce livre et dans cette émission, avec deux mots très simples que vous parcourez au début de votre livre, merci et me voici. Merci, on le dit, me voici peut-être moins, et pourtant à vous lire, les deux sont liés. On vous retrouve dans quelques minutes.
Emmanuel Pella.
Marie l'Immaculée, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, ce jeudi, en direct donc depuis Lourdes, pour ceux qui nous prendraient en cours de route, à l'occasion du pèlerinage du Rosaire, dans ce deuxième jour de ce grand et beau pèlerinage ici à Lourdes, où tout un chacun peut venir en toute tranquillité et sans danger, et ça vaut le coup. Entre autres, vous pourrez éventuellement y croiser Martin Stephens, donc, qui est notre invité de ce matin, qui est donc philosophe, pour rappel, chroniqueur à la Croix et à la Vie, et auteur d'un ouvrage que l'on parcourt avec lui ce matin, Marie comme Dieu la conçoit. Vous me disiez pendant la pause qu'il faut partir dans les hautes sphères. Votre dernier chapitre, au contraire, s'appelle Simplicité, et je vous propose peut-être de s'arrêter dessus avant de parler de ces deux mots, merci et me voici. Il y a parfois quelque chose de paradoxal dans la vie chrétienne. Vous me direz qu'en Dieu, il y a souvent beaucoup de paradoxes apparents. C'est que c'est à la fois très ardu et à la fois très simple. Peut-être comme cette émission pour certains. Est-ce normal, j'allais dire docteur, mais vous n'êtes pas docteur, puisque vous nous servez de guide. Cette simplicité est-elle aussi un chemin, et est-ce normal qu'elle soit ardue?
Ah oui, c'est je crois que je suis de ceux qui pensent, même dans, c'est la façon dont je pratique mon enseignement, qu'il ne faut pas hésiter à accueillir en soi des choses qu'on ne comprend pas d'abord. Je crois que si l'on veut accueillir que ce qu'on a déjà compris, ou si l'on veut enseigner à des enfants que ce qu'ils sont capables d'entendre, eh bien finalement, on les enferme dans ce qu'ils ont déjà compris. Et je crois que le mystère, et même l'exigence parfois même conceptuelle de la philosophie ou même de la théologie, eh bien, soit elle nous rebute parce qu'on a une sorte de complexe d'infériorité, on se dit bah, dis donc, je comprends pas, je ferme. Soit on exige donc qu'on ne nous enseigne que ce qu'on a déjà compris, mais comment progresser. Soit on se dit, je ferme les yeux et j'écoute. Souvent, je lis des livres de philosophie que je ne comprends pas. J'ai beau l'enseigner depuis 20 ans. Et je me dis, bien, continue de lire. Et à un moment donné, tu vas entrer dans cette perspective. Et si tu ne comprends pas, c'est que le philosophe en question est en train de t'offrir une perspective que tu n'avais pas encore.
Et donc, à vous lire, c'est la même chose avec la vie en Dieu. Vous dites, la vie avec Dieu est parfois difficile, mais elle n'est pas compliquée.
Oui, c'est ça. C'est que elle est difficile et en même temps, elle est toujours toute proche de ce que nous avons à vivre, et même dans notre jour présent. Et c'est vrai que cette distinction que je fais entre difficile et compliqué, c'est-à-dire oui, suivre Dieu, l'aimer chaque jour, c'est peut-être difficile, mais c'est pas quelque chose qui est compliqué. Voilà, faire de l'astrophysique, c'est sans doute quelque chose qui est compliqué, mais Dieu ne nous met pas sur des chemins compliqués, mais par contre, il n'a pas peur de nous demander parfois d'emprunter des chemins difficiles.
Alors, ces deux mots, c'est le début de votre livre. Probablement que c'est pour ça que nombre d'auditeurs vous connaissent, pour avoir lu d'autres de vos ouvrages. C'est pour ces manières, on va dire, de nous aider à regarder la réalité qui est la nôtre, mais avec un autre regard, justement, un regard simple et émerveillé. Et donc, vous vous arrêtez sur deux mots, merci et me voici. Ma vie commence, vous dites, quand je la reçois. C'est-à-dire ?
Bah, c'est-à-dire que...
On peut vivre toute sa vie sans la recevoir, et donc ne jamais commencer à vivre.
Oui, c'est bien sûr, on peut... C'est terrible, c'est la fameuse scène dans le journal du curé de campagne que je relisais avant-hier, entre le curé de campagne et Madame la Comtesse. Et Madame la Comtesse, parce qu'elle a perdu son fils à l'âge de 18 mois, s'est fermée complètement à l'amour. Et pour elle, on lui doit quelque chose, et elle ne reçoit plus du tout, notamment la présence de sa fille à ses côtés, la présence de cet humble curé à ses côtés, elle ne reçoit plus rien comme un don. Et le curé de campagne réactive cette capacité d'aimer au terme d'une confession âpre et violente d'ailleurs. Mais en effet, pour que notre drame n'est pas de manquer, c'est de ne pas recevoir tout ce qui se donne à nous. Notre drame, c'est pas qu'il ne fasse pas beau, c'est que souvent souvent nos volets sont fermés. Et donc, en effet, on peut vivre toute sa vie en disant « j'ai pas choisi de naître, j'espère au moins qu'on me rendra heureux ». Ou alors, toute autre perspective, « j'ai reçu la vie sans l'avoir méritée, que puis-je faire pour honorer ce don et le faire circuler ?»
Alors du coup, vous commencez par le merci. On entend que c'est un chemin, mais que c'est le début du vrai chemin. Qu'est-ce que vous pourriez dire de cette première parole? Elle rejoint en fait quelque part ce don de Dieu que vous avez décrit. Hein. Il y a comme un monde avant notre monde, mais qui est présent dans le monde, qui est ce cadeau que Dieu nous a fait de la vie. Et c'était d'abord son premier projet, c'était de nous faire ce magnifique cadeau.
Oui, c'est ça. Ce qui est fascinant dans la vie chrétienne, c'est que finalement, que peut-on nous enlever? Car dès lors qu'on a compris que ça n'était pas un dû d'exister, qu'exister est un don, toute notre vie est comme par surcroît. Et au fond, je crois que une fois j'avais rencontré comme ça un prêtre belge qui m'avait dit, tu vois mon gars, j'ai 55 ans, je suis pas très très vieux selon les normes modernes, mais ma vie a été tellement gorgée de bonheur que maintenant, je pourrais bien mourir demain, vraiment j'en voudrais pas au bon Dieu, maintenant, désormais je vis par surcroît, c'est-à-dire tout ce qui vient, c'est en plus. Et quelque part, c'est là encore, c'est presque la façon dont les enfants vivent. Finalement, les enfants se laissent faire et tout ce qui arrive, hein, comme on dit, ils prennent le bonheur comme il vient. Et voilà. Et je pense que oui, le merci, c'est vraiment c'est ce qui nous sauve d'être des enfants pourris gâtés, c'est-à-dire des enfants à qui on pourra tout offrir, jamais ils ne recevront rien.
Mais Martin Stephens, au risque de vous provoquer, quand vous dites par exemple, entre autres, donc au début de ce livre, la vie est en elle-même, la vie est en elle-même belle et bonne, on se dit tant mieux pour lui. Nombre de personnes qui viennent ici à Lourdes n'ont pas ce regard sur la vie et ils ont des bonnes raisons de regarder peut-être leur vie comme telle. Ce que vous proposez au début n'est pas si évident.
Non, c'est pas évident, mais et en même temps, c'est peut-être presque le plus logique, c'est-à-dire que pour être malade, il faut d'abord être en vie. Un caillou ne tombe pas malade, ce qui est premier sur la maladie, c'est la vie. Alors c'est sûr que parfois la maladie est telle qu'on a envie de s'écrier quelle chienne de vie, qu'est-ce que cette vie, etc., etc. Et en même temps, même ce cri-là, ça n'est pas, si vous voulez, je crois que ça c'est très très important. Ce cri-là n'est pas le cri d'un vivant contre la vie, puisque on n'a jamais la vie en face de soi, on est dans la vie. Ce cri-là, c'est la vie en nous qui crie contre tous les obstacles qui lui ont été mis. En réalité, quand nous crions quelle chienne de vie, ça n'est pas nous qui crions contre notre vie, c'est notre vie qui en nous crie contre tout ce qui l'empêche. Et c'est pour ça même qu'on vient à Lourdes demander la guérison, parce que on sait que ça n'est pas que c'est un scandale que la vie ne puisse pas se déployer parfaitement, entièrement. Et en même temps, le grand miracle, c'est que parfois on revient non pas guéri au sens où le mal est absent, mais guéri au sens où on fait cette déclaration d'amour à notre vie et à Dieu qui en est l'origine. Qui va aimer ma vie si ce n'est moi? Ne suis-je pas le premier à apprendre à aimer ma vie, à l'aider ma vie à se faufiler à travers tous ces obstacles que sont la maladie, les blessures du corps et de l'âme?
Ce chemin, on le fait à Lourdes. On imagine que Marie ou l'Immaculée justement n'y est pas pour rien. Si avant de parler du me voici, comment cette immaculée que vous nous présentez dans cet ouvrage avec Don Scott peut nous aider à entendre ou à conscientiser ou à vivre ce que vous venez de nous dire, c'est-à-dire de se rendre compte que si on crie, c'est que la vie crie en nous.
Ah oui, c'est Marie. Elle est vraiment la figure de celle qui en effet reçoit toute chose de Dieu. Et évidemment, elle a même reçu son propre enfant de Dieu. Mais cette capacité, cette on va inventer un mot, cette réceptabilité, cette capacité à recevoir, elle l'a finalement vis-à-vis de tout ce qui lui arrive, tout ce qu'elle doit recevoir et même l'épreuve de la mise à mort de sous ses yeux de son fils. Bernanos, justement, dans le journal d'un curé de campagne, a cette formidable phrase à propos de Marie et de l'Immaculée Conception, phrase qu'il met dans la bouche du curé de Torcy. Il dit, mais tu t'imagines, elle était immaculée, c'est-à-dire qu'elle n'avait pour le mal qu'une surprise douloureuse. Nous, on comprend le mal, on s'en excuse, on en accuse les autres, etc. Elle n'avait pour lui, pour ce mal qu'on fait, que la surprise douloureuse de celle qui ne peut pas le comprendre, qui donc le reçoit d'autant plus, hein, on reçoit d'autant plus le mal qu'il vient froisser notre innocence. Elle, cette innocence, c'était son être même. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle faisait avec ce mal-là? Eh bien, elle le recevait, elle disait pas qu'il n'existe pas, elle ne jetait pas la cause sur d'autres, elle ne voulait pas le comprendre, elle voulait le vivre. Et la passion de son fils, c'est ça aussi. Ce mal qu'on nous fait, plutôt que de chercher à accuser ou à trouver des excuses, peut-être qu'il faut le traverser pour y semer quelque chose qui ressemble à son autre, à la vie.
J'allais dire, quelle belle méditation. Je ne suis pas chargé de commenter, mais de fait, ça aide à comprendre la Vierge et la place qu'elle peut avoir. Alors, si on finit par cette seconde parole, me voici. Me voici, c'est presque ce que répond aussi Marie, hein, au moment de l'Annonciation. Elle dit oui, elle se présente, elle s'abandonne à un projet complètement fou. En tout cas, c'est la foi des chrétiens. Vous en faites le deuxième mot, comme le pendant, comme la réponse, comme la suite logique. Merci, me voici. Alors vous dites la chose suivante, me voici la parole d'un dessaisissement de soi radical qui ne serait qu'un terrible abandon s'il n'était pas aussi en même temps le don total de sa personne. Je vais le relire parce qu'à la fin de l'émission c'est peut-être un peu exigeant. Me voici la parole d'un dessaisissement de soi radical qui ne serait qu'un terrible abandon s'il n'était pas aussi en même temps le don total de sa personne. Si on devait finir là-dessus, Martin Stephens, on a presque l'impression que vous nous proposez de mourir là, à la fin de l'émission.
Mais je crois en fait qu'on a oublié quelque chose de très important, c'est que les chrétiens sont des morts. Alors pas du tout des morts vivants comme on voit, c'est des gens qui sont morts à cette vie telle qu'on veut la posséder et qu'on craint de la perdre, qui sont morts à cette vie-là, dans les eaux du baptême, hein, le baptême est une mort, pour finalement être libre de cette vie qui nous possède, pour en être tellement libre que désormais, cette vie, ils comprennent qu'ils la reçoivent d'ailleurs et que on ne reçoit jamais mieux le cadeau, par exemple, que nous ont fait nos parents en nous donnant la vie ou en nous donnant une éducation. On ne le reçoit jamais mieux qu'en le faisant circuler au-delà de soi, qu'en le donnant à notre tour. Et en effet, notre vie est un don au double sens de ce que l'on reçoit et de ce que l'on fait. Et à la fin de notre vie,
de ce que l'on donne, donc c'est
ouais,
ça.
C'est ça, le don que l'on fait, le don que voilà, exactement. Et à la fin de notre vie, qu'est-ce que c'est que la mort? Comment peut-on lire notre mort, eh bien, quand nous ne pourrons plus retenir notre vie à nous, quand en effet la main qui était crispée un instant avant se relâchera, à ce moment-là, nous ne serons plus que ces deux mots, silencieux sans doute, mais ces deux mots, on dira au Christ à qui nous avons été offerts, si le monde est le cadeau du Père au Fils, on dira au Fils, on dira au Christ, eh bien, désormais me voici. Voici toute ma vie, voici. Et donc, si vous voulez, notre mort, qui est le moment où nous ne serons plus qu'une offrande, eh bien, il faut un peu l'anticiper. Il faut dès aujourd'hui, eh bien, s'offrir au Christ, c'est-à-dire s'offrir aux pauvres, s'offrir à notre prochain. Il faut que notre mort ne vienne pas surprendre quelqu'un qui a essayé de thésauriser, de capitaliser cette vie, qui n'a pas compris qu'il fallait faire circuler le don. Il faut que cette mort nous saisisse presque en état de mort consentie, mais la mort consentie, c'est pas se laisser mourir, c'est véritablement l'amour. Il y a dans le consentement à la mort quelque chose de l'amour, puisque dans l'amour, on accepte de ne pas retenir à soi et de faire circuler la vie bien au-delà de soi.
Je finirai par une question qui est peut-être qui est le prolongement, qui n'est pas dans votre livre. En tout cas, vous y répondez pas à cette question. J'ai souvent entendu dire qu'il y a une très grande étape de la vie spirituelle que peu de gens franchissent, on va dire, au cours de leur vie, mais qui est souvent le rendez-vous justement des mourants, qui est comme une forme de grande lâcher-prise intérieure, dit-on. Et cette bascule dans la vie spirituelle correspondrait à justement à ce lâcher-prise. Est-ce que quelque part, c'est ce qu'il faut comprendre avec ce « me voici » je ne sais pas si ça évoque chez vous quelque chose.
Ah, mais tout à fait, vous parlez de rendez-vous. J'aime beaucoup, c'est ce que je fais dans un livre qui vient de paraître en poche, « L'éternité reçue ». Je finis d'ailleurs sur ce rendez-vous, et on peut entendre rendez-vous dans un double sens, à la fois évidemment le rendez-vous auquel on se rend, le rendez-vous amoureux, par exemple de nous-mêmes avec notre Créateur au moment de la mort, mais ça n'ira pas sans le rendez-vous que la police assène aux bandits. Rendez-vous, déposez les armes. Et en effet, ce lâcher prise, cet abandon, Saint Philippe Néri disait l'abandon, ce par quoi nous voudrions commencer est toujours ce que nous obtenons tout à la fin, et tout à la fin de notre vie spirituelle, cette capacité de nous abandonner, ce rendez-vous au sens de déposer les armes. On arrête de lutter, désormais ma vie sera ce que Dieu donnera. Et c'est vrai que c'est difficile parce que on a en effet, pour reconvoquer la métaphore de la main, tout à l'heure on parlait de la main d'emprise, cette main, et qu'il faut la retourner pour que ça devienne une main qui reçoit, mais souvent c'est même un poing fermé. On a tellement peur, de lâcher notre vie, et on a tellement peur que l'abandon soit l'abandon comme des parents qui abandonnent leurs enfants, alors qu'en fait ça sera au contraire l'abandon de l'enfant à son père.
Eh ben merci Martin Stephens de nous avoir pris par la main pour cette belle méditation. Je rappelle le titre de votre livre, Marie comme Dieu la conçoit, paru aux éditions du Cerf. Merci.
Merci beaucoup.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.